Bonjour à l'équipe de La Basse, j'y suis. Je viens de tomber sur votre émission sur le Paris arabe. Je suis Safia de Paris, petite fille d'immigrés arrivée pour construire le métro parisien. Je voulais vous remercier pour cette émission et vous dire qu'elle m'avait beaucoup émue. Et puis voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie énormément de votre travail et c'est avec plaisir que je lirai le livre de Pascal Blanchard. Merci, au revoir.
Allô, ici l'ambassadeur des États-Unis à Bruxelles. Nous avons capturé une partie du soleil. Et nous lançons un ultimatum. Nous ne rendrons cette partie du soleil que si le monde se plie à nos exigences. Ah quoi, qu'est-ce que tu dis? Ah, la sonde Genesis est tombée. Mon Dieu, nous avons perdu la bombe solaire que nous préparions. Mais vous ne perdez rien pour attendre.
Salut Daniel, c'est Damien à Nevers. Bonjour à toute l'équipe de La Basse, j'y suis, ainsi qu'aux auditeurs de France Inter. Alors avec l'argent de la guerre en Irak, c'est-à-dire 136 milliards 841 967 800 dollars, considérant que la population mondiale est d'environ 6 milliards et demi de personnes, on aurait pu offrir à chacun, de chaque personne vivant dans le monde, le livre de Michael Moore, Mike contre-attaque, à environ 16 euros, ainsi que la place de cinéma qui va avec, pour le film Fahrenheit 9-11, soit un total d'environ 22 euros. Alors d'aucuns me répondront que c'est complètement inutile, qu'il y a beaucoup trop d'illettrisme dans le monde, qu'on a sûrement mieux fait de faire la guerre en Irak. En plus, si on n'a pas fait la guerre parce qu'on a acheté le livre de Michael Moore, on n'a plus besoin de la faire, cette guerre. Et bien qu'à cela ne tienne, pour les analphabètes, avec la même somme, on leur achète le livre de Françoise Boulanger qui s'intitule « Le bonheur d'apprendre à lire ». Salut.
Ça a augmenté depuis hier. Le prix total de la guerre en Irak est depuis hier. Nous en sommes... Au total, depuis le début, à 137 milliards de dollars. 137 milliards, 195 463 000, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 9 000 dollars. Je regarde, comme chaque jour, sous vos oreilles, le grand tableau qui est au milieu de New York, à Manhattan, imposé par Project Billboard. Et voilà, ce que selon cette... ce centre for American Progress, voilà ce que coûte cette guerre depuis le début. Vous avez vu, voilà, c'est presque un milliard depuis hier à la même heure. Et chaque jour, les très malins auditeurs de La Basse, si j'y suis, trouvent ce qu'on pourrait faire avec. On aurait pu faire avec cet argent. Est-ce qu'on pourrait faire avec cette somme un petit peu énorme? Aujourd'hui, on va à Outreau. À notre tour, nous allons à Outreau pour voir un petit peu ce qui s'est passé là et ce qui reste d'Outreau. Ce qui reste d'Outreau, ce qui reste dans le cœur, dans l'âme et dans la vie des acquittés d'Outreau, ceux qui ont été acquittés. Qu'est-ce qui reste après les stigmatisés d'Outreau? C'est un reportage d'Olivia Gesberg. Auparavant... D'autres messages sur le répondeur de La Basse, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Eh bien, 136 milliards, on pourrait les donner à Ernest Antoine. Peut-être que comme ça, il arrêterait de nous casser les bonbons. Voilà, c'est une idée, les 136 milliards de la guerre. Remarque, il continuerait peut-être, il n'aurait peut-être pas assez, il continuerait. Bon, c'est pas une bonne idée. Bon, désolé, ces gens de d'ombre. Ciao.
1 euro, 1,20 $. Un cahier, 2 francs, 30 centimes d'euros, 36 centimes de dollars. Un crayon, 1 franc, 15 centimes d'euros, 18 centimes de dollars. Un cahier plus un crayon, 55 centimes de dollars. Avec 137 milliards, 18 millions, 640 000 dollars, on peut acheter... un cahier et un crayon chaque année à 1 milliard d'enfants pendant 249 ans et 8 mois.
Bonjour, La Basse, j'y suis. Alors donc, 684 373 765 000 dollars. Bon, mais moi, j'ai un peu de mal à voir ce que ça représente. C'est un peu trop grand pour moi. Alors j'ai eu cette démarche, j'ai divisé ce nombre par mon revenu mensuel pour voir combien on peut faire vivre de gens comme moi avec cette somme. Alors voilà, moi je suis arrivé à un total de 1 368 747 350 personnes Voilà. Et puis surtout, bon, j'ai réalisé que moi j'étais dépassé par ce chiffre, mais ma calculatrice aussi, parce que bon, ma calculatrice c'est mon portable, hein, banal quoi. Elle acceptait pas autant de chiffres.
137 milliards. Je fais un petit calcul à 600 € par jour de frais de bouche, et si je vis encore 50 ans, j'en aurai que pour 10 millions d'euros. Avec ce qui me reste, je rachète Tamara Desnouda, je rachète la jeune femme qui monte son sein au Prado, je rachète l'origine du monde, je rachète la Vénus là qui monte son cul de Velázquez. Puis voilà, je regarde ça, et puis avec les s'il me reste quelques centimes, un petit Caravage chez cadeau, ça me fait plaisir. Et puis avec les centimes qui restent, j'envahis le Luxembourg ou la Suisse. Salut.
I'm George W. Bush, and I approve this message.
Totov, cette affaire-là, salut tout le monde. Madame a posé la question.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Olivia Gesbert, la basse, j'y suis, les acquittés l'outro.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Totov, cette affaire-là, salut tout le monde. Madame a posé la question. Non, mais. Oui ou non? Ouais, bah, c'est, voilà, bah, votre réponse, elle est faite.
Un sacré choc, ouais. Parce qu'on a été le plus embêté, c'est par les journalistes au début. Les journalistes, ils ont marqué, par exemple, l'immeuble des crasseux, qui nous a été marqué sur la voie du Nord, l'immeuble des crasseux. Alors, ça fait bien quand même pour nous, quoi. C'est clair.
Eh, hey, monsieur, vous nous. Madame, vous nous filmez pas, hein.
Ah non, il n'y a pas de caméra.
Ouais, c'est quoi là à côté de vous?
C'est un micro, simplement.
C'est un micro, c'est pas la caméra.
Dis bonjour. T'as vu, c'est une caméra.
Non.
C'est le 16 mai 2002 que c'est la dernière fois que j'ai vu mon gamin. Il m'a vu partir avec le monsieur. Bon, j'avais pas de menottes, rien. Mais il m'a regardé, il m'a dit « Papa, tu vas où ?» Ben, j'ai regardé mon gamin, je lui ai dit « Papa, il revient dans une heure » et j'aurais vu 2 ans après.
À 6h du matin, on sonne chez vous, on tape dans la porte et moi, je me réveille brutalement, brusquement. Et là, j'aperçois à la porte d'entrée, et devait être quatre policiers avec brassard policier. Je me dis, tiens, comme mon fils est ambulancier, qu'il est toujours sur les routes, l'inquiétude totale, je me dis, je crie Cristal et je lui dis, écoute chérie, il doit être arrivé quelque chose à Guillaume, la police est en bas, et donc on a pensé tout de suite au pire, quoi. Donc ma femme est descendue, je suis descendu après. Et là, ça a été pour me dire que j'étais impliqué dans une affaire de pédophilie et que si j'avais déjà entendu parler de l'affaire de pédophilie d'Outreau et que j'étais impliqué dedans.
27 737 Z. C'est le numéro d'écrou qu'on vous donne à l'entrée et que vous devez connaître par cœur. Mais bon, il n'y a pas besoin de s'entraîner parce que c'est resté gravé. Plus que tatoué, c'est marqué à l'encre rouge. On peut pas l'oublier. On ne peut pas.
Vous habitez ici depuis combien de temps?
On est rentré le 8 octobre 58. Pas d'aujourd'hui, hein? C'était des gens très bien, si c'était bâti.
Mais t'avais pas des immeubles comme ça.
Vous savez ce qui s'est passé? Maintenant, on enlève des gens qui ne sont vraiment pas bien et on nous les ramène ici. Faut bien les loger quelque part. On travaille pas tellement là-bas. Mais ça a de l'argent quand même. Ils cherchent du travail, peut-être dans l'espoir de pas en trouver. Hein?
Et vous la connaissiez, vous, Rosine Godard, la boulangère? Par exemple?
Qu'est-ce qu'elle foutait la minuit, elle? Avant de ses pains?
Arrête de parler, de m'énerve.
Ben aujourd'hui, elle va gagner des sous. Aujourd'hui, elle fait un livre. Ah. Elle va gagner des sous.
Ça vous gêne qu'ils fassent des livres maintenant et qu'ils aient les caméras tout le temps?
Exactement, parce qu'ils vont encore gagner de l'argent sur de la misère. Ça, c'est toujours pareil, hein. C'est quelque chose, ça. Voilà, mademoiselle.
Et qu'est-ce qu'il faut ? Merci, madame.
Bon après-midi.
Vous avez déjà reconnu certaines voix. Vous avez déjà reconnu certaines voix comme celle de Roselyne Godard, dit de la boulangère. Ces personnages, les personnages de l'affaire Doutreau, Doutreau comme outrance et comme Dutroux, ces personnages sont devenus familiers et dans nos ces derniers mois, dans nos télés, dans nos journaux, dans nos radios. Ils sont devenus les figures répulsives d'un drame comme notre monde s'en régale de temps à autre. Un de ces faits divers qui effectivement fait diversion, mais qui, celui-là, en dit très très long sur un tas de choses. Un tas de choses, évidemment, dysfonctionnement extraordinaire de la justice, tam-tam médiatique comme rarement. Tout un tas de choses se donnent à voir dans ce délire accusatoire, à commencer par ce climat de passion répressive qui a poussé sans doute la justice dans ses abus et ses excès, et puis aussi ce qui transpire de toute cette affaire et ce qu'Olivia a rencontré et rapporté dans son micro, c'est quelque chose qui suinte le racisme social ordinaire. Bien sûr que chez ces gens-là, on est alcoolique, on se drogue, on fait des choses absolument répugnantes avec les enfants. Quand on monte les escaliers, ça sent l'urine et la soupe aux choux. On sait quelles ont été les outrances médiatiques dans l'affaire Doutreau. Aujourd'hui, on a voulu revenir à Doutreau pour écouter simplement, une fois la marée médiatique un peu retirée, une fois que marée s'est un peu retirée, voir un peu ce qui se dit, avec le temps de parler avec les uns et les autres, avec les stigmatisés, avec ceux qui ont passé 2 ans, 3 ans en prison, alors qu'ils étaient tout à fait innocents, pour comprendre ce que c'est que ce préjudice. Quel est ce préjudice, quelle est cette tâche qui reste quand ce quelque chose qui reste quand on a été à ce point calomnié et qui, vous allez voir, redonne du sens à un mot trop utilisé qui est le mot kafkaïen. Kafka écrit le procès et dans le début de son livre, les premières lignes du procès sont les suivantes. Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K, car sans qu'il eût rien fait de mal, il fut arrêté un matin. Première ligne du procès de Kafka, qui finit ainsi, mais sur la gorge de K se posèrent les mains d'un des messieurs, tandis que l'autre lui enfonçait le couteau dans le cœur et l'y retournait 2 fois. De ses yeux défaillants, K vit encore tout près de son visage les messieurs appuyés l'un contre l'autre, joue contre joue, qui regardaient s'accomplir la décision comme un chien. Dit-il, c'était comme si la honte devait lui survivre. C'était comme si la honte devait leur survivre, pourrait-on dire, des acquittés d'Doutreau, des stigmatisés d'Doutreau. Cette affaire, vous la connaissez, on va pas revenir sur le déroulement de cette affaire, mais on peut peut-être la résumer en 2 dates et 1 homme. L'un des accusés, le chauffeur de taxi, Pierre Martel, qui, en l'espace de 30 mois, passe de l'opprobre à l'acquittement.
Tard dans la nuit, à la lumière des groupes électrogènes, les recherches se sont poursuivies dans le petit jardin ouvrier. Une parcelle de 100 mètres carrés dissimulée par une bâche blanche et que les enquêteurs fouillent mètre par mètre. Le jardinier appartient à un couple qui vit dans un immeuble d'Doutreau, un couple soupçonné d'avoir livré ses 5 enfants à un réseau pédophile. Des voisins du couple viennent observer la fouille entreprise par les policiers. Les langues se délient. Vincent se souvient des allées et venues étranges d'un taxi.
Il y avait un taxi qui venait chercher les enfants tous les mois, quoi, au début du mois, quoi. Nous, on les voyait revenir l'après-midi, quoi. Ils partaient au matin, déjà. Mais on pouvait pas ça va, d'autres qu'ils allaient.
Le chauffeur de taxi est soupçonné d'avoir conduit les enfants dans une ferme de Belgique où des vidéos pornographiques auraient été tournées. Le chauffeur et plusieurs notables ont été incarcérés. Ils sont soupçonnés d'avoir appartenu au réseau pédophile. Leurs agissements auraient duré plusieurs mois, des années peut-être.
France Inter.
Après un procès fleuve de plus de 2 mois et un délibéré de près de 15 heures, la cour d'assises du Pas-de-Calais a rendu son verdict cette nuit dans le procès
2 juillet 2004.
Condamnation,
document précédent, 11 janvier 2002.
Pour Thierry et Myriam Delay. Leurs anciens voisins, David Delplanque et Aurélie Grenon, sont condamnés, eux, à 6 et 4 ans de prison. En revanche, les 7 autres accusés sont acquittés. Parmi eux, le chauffeur de taxi Pierre Martel. Entouré des siens hier soir, il avait du mal à réaliser.
Bah forcément, je suis soulagé, mais bon, là, je suis très fatigué.
Dis-le quand même que t'es soulagé, puis t'es content.
Bah, je suis content.
C'est la fin du cauchemar, ça fait plus de 31 mois de cauchemar qui se termine là ce soir.
Ouais.
Hein,
ça fait 3 ans que vous attendez ça, M. Martel.
Ouais,
ça fait 3 ans. Et là, vous savez, j'ai passé toute une journée dans cette salle des pas perdus à attendre, mais j'ai les nerfs.
Bah, il est crevé.
Mais votre confiance, j'ai toujours fait confiance en la justice, mais vous avez toujours cette peur au ventre qui vous fait très mal.
Pierre Martel l'a quitté donc cette nuit par la cour d'assises du Pas-de-Calais. Reste que ce verdict soulève le malaise et même l'incompréhension. Il a d'ailleurs été souvent accueilli par des pleurs et des cris de colère cette nuit et qualifié d'incompréhensible par plusieurs avocats de la défense qui dénoncent l'illogisme des peines. Sur les 10 personnes condamnées, 6 ont toujours clamé leur innocence et pourtant dans certains cas les jurés sont même allés au-delà des réquisitions, notamment pour le prêtre ouvrier Dominique Vielle qui a été condamné à 7 ans de prison et Franck Lavier condamné à 6 ans pour le viol de sa fille qu'il a toujours nié.
Tour du renard, les hirondelles.
Les hirondelles.
Et vous, c'est David. David Bruel. Et on est à 2 pâtés de maison de la fameuse tour des Merles.
Ah, 3 bâtiments.
3 bâtiments.
Balcon bleu. L'avant-dernier, balcon bleu. Moi, chez moi, c'est ma chère petite amie.
Vas-y, avance.
Elle est là, on va pas la déranger?
Non, j'ai demandé de partir parce que j'aime pas trop parler devant elle. Comme je l'ai connue seulement après l'affaire, comme elle dit, elle, ça... Ça concerne pas, moi.
David Brunet fait partie de ceux qui ont été acquittés. Il veut parler. Il a envie de parler. Il veut faire savoir ce qui lui est arrivé. Alors est-ce qu'il veut se réhabiliter? Non. Il n'y a pas de raison d'être réhabilité puisque il a été acquitté. Mais il veut expliquer. Il veut expliquer. Vous allez voir que cet homme et d'autres que nous allons rencontrer parmi les acquittés ont une chose particulière. Et probablement définitif, c'est une tâche. Et cette tâche, ils ont le choix soit de la laisser exhiber et qu'elle se voit, elle se verra définitivement, ou bien d'essayer de la faire disparaître et au mieux, ce sera un trou. Être accusé d'un crime aussi terrible que la pédophilie ne peut absolument pas permettre que ces hommes et ces femmes retrouvent tout à fait une vie normale, quelles que soient les indemnisations, quelles que soient, j'ai appris que on avait délégué des psychiatres pour mesurer l'ampleur du préjudice moral. Quand on sait quel a été le rôle de ces experts au cours de ce procès, on peut douter de leur capacité à mesurer quelle est la nature et la dimension de la souffrance des uns et des autres qui durera sans doute longtemps. Rencontre donc avec David Brunet.
Et vous habitiez en face de Myriam Badawi?
La porte à côté. Si vous voulez, moi, à mon entrée, ma porte était face à l'escalier. À côté de moi, sur la droite, il y avait Dominique Vielle. Sur ma gauche, il y avait Thierry Delay. Et encore sur la gauche, face à Dominique Vielle, il y avait Delplanque Grenon.
D'accord. Et tous ces gens-là ont été impliqués finalement. Tout l'étage, vous avez tous été accusés, sauf qu'il y en a d'autres qui étaient vraiment coupables et que vous étiez innocent.
Voilà, moi, en quelque sorte, mis à part Dominique Vielle, j'étais entouré de criminels.
Alors pourquoi vous? Parce que vous aviez la tête à l'emploi? C'est quoi le truc?
Non, parce que je pense que j'étais proche des délais. Très proche.
En tant qu'ami ou géographiquement parce que c'est le même palier?
Non, moi personnellement, comme j'ai dit à la barre, je ne considère pas les voisins comme mes amis. Moi, les vrais amis, c'est ceux qui aident et ceux qui soutiennent. Tandis que là, c'était seulement histoire de voisinage, quoi. Du genre, tape à la porte, tape à une couche, tape à du lait. Bon, moi, j'étais pas plus riche qu'un autre parce que j'étais en intérim. Mais bon, ben, comme moi j'ai grand cœur, que Karine elle a grand cœur aussi, ben, elle donnait, puis ben, d'avoir trop donné, ça nous a coûté 2 ans quand même. C'est le 16 mai 2002 que c'est la dernière fois que j'ai vu mon gamin. Il m'a vu partir avec le monsieur, bon, j'avais pas de menottes, rien. Mais il m'a regardé, il m'a dit « Papa, tu vas où ?» J'ai regardé mon gamin, je lui ai dit « Papa, il revient dans 1 heure » et je l'aurai vu 2 ans après.
On repart en arrière, là ils viennent, ils vous arrêtent.
Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont ramené au CRPJ de Lille. De là, ils ont appelé le juge Burgot, ils lui ont dit « Ça y est, on l'a, tout s'est bien passé, il était calme. Bah, » Logiquement, moi je les ai suivis. Et de là, bon ben, je suis descendu à Boulogne-sur-Mer. Et le juge, il m'a dit, bah écoutez, vous avez des accusations de viol sur les enfants de lait. Et je lui ai dit, bah ça c'est de la part de qui? Il m'a dit de la part de Ray Grenon et de Bérim Badawi. Moi j'ai dit, bah écoutez, la Grenon, chez moi si je la vois, je la rentre dans l'arc, quoi, je rentre dedans, quoi, il y a un ras-le-bol d'avoir des accusations pareilles. Chez moi je lui fais la peau, je suis désolé, il faut pas me cacher la vie comme ça. Il fait, si vous parlez comme ça sur elle, vous rentrez en prison, elle reste dehors. Parce que j'avais fait des menaces entre deux à Rudy Grenon.
Mais toujours sous les accusations de viol des enfants de lait.
Voilà. Donc là, ils m'ont mis à mon beuge. Et à mon beuge, bon, bah, moi, sur le coup, j'ai pas réagi. C'est la première fois que je mets les pieds dans une prison. J'ai pas capté. Je me suis assis sur le lit là-bas. Ils ont refermé la porte. J'ai vu les barreaux sur les fenêtres. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire que ça va me faire là? Je me suis dit, bon, bah, peut-être que demain, ils vont rouvrir les portes et puis que je vais ressortir, qu'ils vont se rendre compte que c'est de la connerie, quoi. Puis, bah, 2 heures après, j'étais toujours dedans. C'est tout. Moi, c'est le cas de le dire, j'ai pourri 2 ans derrière les barreaux, pour rien.
En plus, être pointeur en prison, c'est pas top, hein.
Déjà, de l'entendre votre bouche, ça fait pas plaisir.
C'est quoi, pointeur?
Pédophile. Il y a plusieurs noms, il y a pointeur, il y a tutu, il y a pointu, quoi. C'est tous des noms comme ça, quoi.
Et ça, les autres, ils vont l'en reprocher clairement ou ils ont cru en l'innocence?
Ceux qui l'ont mal pris, bon, ils m'ont fait la misère. Du genre, cracher dans la gamelle. Voler la nourriture. Des fois, ça arrivait aussi comme de ne pas manger de la journée. Eux, garder la nourriture pour eux. Le courrier, quand le surveillant est rentré, qui me disait, Brunet, il y a une lettre pour toi, c'est ta petite amie ou tes parents. Il me disait, bah tiens, tu l'auras dans 1 semaine. Si vous voulez un exemple, bon, bah, quand je travaillais aux ateliers pour Valeo éclairage, il y avait un détenu qui s'appelait Stéphane, le nom de famille, je sais pas. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été voir les autres détenus, puis il m'a pointé du doigt en disant, bah, celui-là, là-bas, il est dans l'affaire du trou, il a violé 17 enfants plus son fils. Et c'est là qu'après, j'ai eu la grosse misère. Ben, on vous tape dans la porte à longueur de journée, toute la soirée, on vous appelle à la fenêtre et tout, vous traite tous les noms, on vous insulte votre fils, on vous insulte vos parents. Même mon père qui est décédé depuis 14 ans, ils ont dit comme, il y en a un qui a dit comme ça à la fenêtre, si ton père, il est mort, il est en train de se faire bouffer par les vers, c'est qui t'a pointé quand t'étais jeune. On m'a traité mon fils de tous les noms, même ma grand-mère, ils ont tout le monde, quoi. Quand il y a tous des détenus comme ça, surtout des gros colosses, il vaut mieux se taire. Parce que pour sortir, même pour prendre la douche, pareil, c'est avec une fourchette dans les mains. Pour pouvoir se défendre s'il se passe quelque chose. J'ai eu quelques tentatives de me faire taper dessus, mais il y a quand même des détenus qui m'ont pas mal aidé, surtout un. Moi, il m'a aidé. Il a toujours dit celui qui touche à David. Enfin, là-bas, on m'appelait Johnny Hallyday parce que j'écoutais Johnny Hallyday. Et il a dit, le premier qui touche à lui, il a affaire à moi. Donc, en quelque sorte, j'étais un peu protégé par lui quand même.
C'est quoi ta chanson favorite de Johnny?
J'aime pas trop chanter. C'est Un jour viendra, tu me diras je t'aime. Et puis, voilà. Ouais, c'est une petite chanson d'amour, quoi. C'est beau. À chaque fois que j'écoutais, je pensais à mon gamin. Parce que mon gamin, quand on était à Paris, il me disait toujours, papa, je t'aime. T'es mon petit cœur qui me disait toujours, t'es mon petit ange, et à chaque fois j'écoutais ça. Ça, et puis aussi Vivre pour les meilleurs, parce que lui, il le chantait lui-même.
Qui chantait lui-même? Anthony,
oui. Il chantait cette chanson Vivre pour les meilleurs, il le chantait, il prenait le ballet, puis il faisait comme Johnny Hallyday, il chantait avec. Puis papa, il faisait avec en même temps.
C'est ça qui vous a fait tenir pendant les 2 ans de prison? C'est l'idée d'Anthony, de le revoir, etc. Fallait lui prouver qu'on était innocent à lui, quoi.
J'ai eu une tentative de suicide en cellule. Et j'avais découpé le drap en lamelles. Je l'avais accroché au barreau, j'avais refermé la fenêtre, j'avais fait le nœud coulant. Je m'avais bouché la bouche, les narines, attaché les pieds. Et j'avais plus qu'à m'accrocher, mais quand je me suis accroché, que j'ai mis le drap autour du cou, j'ai eu l'image de mon gamin dans ma tête qui me disait encore une fois, papa, fais pas ça, j'ai besoin de toi. Et là, tout de suite, j'ai arraché le drap et je me suis rallongé, quoi. Même libre, même avec l'acquittement, je vais vous dire franchement, je vais vous le dire à vous, parce que je l'ai pas encore dit à d'autres. Il y a des moments, je pense, enfin, j'aurais, avec tout ce qu'on voit dehors, avec tout ce qui s'est passé, je pense qu'il y a des moments, ce serait mieux ailleurs. Parce qu'il y a des moments, il y en a marre quand même. Vous aurez un peu de calme.
On vous a pas aidé quoi dans la vie, hein?
Pas du tout, non. Puis j'ai pas eu trop de chance non plus. Avec le père qui était assez agressif, qui était assez méchant, non, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop de bonheur. Le seul bonheur que j'ai eu, c'est mon gamin, mais rien d'autre.
Parce qu'on a tous quelque chose en nous de Tennessee, non?
T'es bien, ouais.
Cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini, il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee.
Quand tu vas chercher un emploi par la mairie et tout ça, tu demandes un CES ou n'importe quoi, tu demandes où c'est que tu habites, ben à Tour-du-Renard. La Tour-du-Renard, c'est pédophile. Ben voilà, c'est comme ça.
Malheureusement. Vous habitez Tour-du-Renard?
Oui, malheureusement, oui. Ça se voit à leur tête, ils se décomposent.
Et du coup, vous écrivez plus sur le CV que vous êtes de la Tour-du-Renard?
On met le nom de la rue, mais pas le nom de la cité. C'est clair.
Il y en a certains qui me disent qu'il faut se laisser vivre, mais bon, c'est pas facile, quoi. Déjà là, au boulot, bon, bah, y a toujours des questions qui sont posées.
Genre quoi?
Genre, pourquoi il est tombé en prison? Pourquoi, comment ça se fait que t'as habité là-bas? Comment ça s'est passé en prison? La nourriture, ceci, tout cela. Y en a un peu marre, quoi.
Vous leur répondez ou c'est silence?
Non, moi je leur réponds franchement. Parce que je pense que quelque part, faut faire comprendre aux gens comment ça se passe en prison, quoi. Et comment ça se passe quand on a peut-être telles accusations sur le dos. C'est un peu rengaine pour moi, mais quelque part, il faut leur faire comprendre. Puis surtout leur faire comprendre qu'on n'a rien à voir dedans.
Faire comprendre qu'on n'a rien à voir dedans, voilà ce que fait David Brunet, voilà pourquoi il nous parle, voilà pourquoi il a parlé avec Olivia. Ils sont quelques-uns à outreau à vouloir parler. Pas tous, mais ils risquent de parler longtemps avant d'être acceptés à nouveau, avant d'être réintégrés. C'est presque une réintégration ethnique. Puisque ce que dit ce garçon dans ce bistrot, c'est que si on dit qu'on est de la tour du renard, eh ben on fait partie des pédophiles. C'est comme une tribu à part, stigmatisée, exclue. Et ça dit la profondeur, l'épaisseur, l'archéologie des fantasmes qui nous qui nous travaille tous. Personne ne peut prétendre être exempt de ça, indemne de cette. Si on a le temps d'ici à la fin de cette émission, on écoutera la chanson du bon Saint Nicolas. Vous connaissez cette histoire. Vous allez voir que il y a sans doute un rapport très ancien, très profond, très lointain entre ce qu'on appelle des fantasmes très vaguement, mais qui traversent. Et qui parcourt, qui accompagne très profondément nos mentalités. On est avec David qui parle en effet.
Si on sait le dessin d'une montagne avec les mains, la vie elle était comme ça avant, puis d'un coup il y a eu l'affaire Outreau, comme ça, ça descend sec, et là on en est où?
Pas loin de la moitié.
Et en haut de la moitié de la pente?
Moitié de la pente, ouais.
Et le sommet, il est atteint quand?
Quand j'aurai mon fils 24 heures sur 24 avec moi. Peut-être que là, ça me permettra d'évacuer un peu.
En fait, après la séparation avec Karine, il vivait avec vous, Anthony. Hein.
Après la séparation, il était toujours avec moi. Même entre deux, bon, c'est pas un reproche, bon, c'est histoire de jeunesse à Karine. Bon, elle a eu pas mal de problèmes, le décès de son frère qui l'a énormément choqué. Bon, ça, c'est pas un reproche, mais bon, c'est un peu moins occupé d'Anthony, quoi. Moi, c'est surtout ça qu'il me faut, c'est mon gamin. C'est tout. Le problème, c'est pour récupérer mon fils Anthony, il me fallait un travail et un appartement. Donc, je suis allé voir le maire, j'ai pris rendez-vous avec lui. Et je lui ai demandé de me donner un travail assez rapidement et puis un appartement. S'il pouvait m'aider. Et jusqu'à maintenant, j'ai été prêt à la mairie toujours.
Vous avez été pris pour faire quoi?
Pour travailler dans l'espace vert. Comme j'ai un CAP d'horticulteur, j'ai de l'espérance derrière. Là, je travaille dans les serres.
D'accord. Ça, c'est ce que vous faisiez déjà à peu près avant, quoi.
C'est ce que j'ai toujours fait pratiquement. Ouais.
Et c'est un boulot bien payé?
Ouais.
Ouais, dans le sens on a de quoi reconstruire avec ça, se prendre un appart, etc.
Ouais, parce que ici la vie dans le Pas-de-Calais est pas trop chère, contrairement à Paris, quoi. Ouais. Et ouais, avec le salaire qu'il y a là, il y en a assez. Ouais.
C'est un contrat à durée déterminée ou c'est quelque chose d'un peu stable?
Non, c'est indéterminé.
Indéterminé.
Indéterminé. Normalement, c'est l'embauche. Parce que moi, si vous voulez, j'ai déjà travaillé plusieurs années pour lui. Sur le jardin public, et bon, il a eu que des bons points, et donc il m'a pris, quoi, il a pas attendu.
Et vos parents, ils savent quoi?
Ma mère a été mère au foyer, elle a toujours été, parce qu'elle s'occupait de ses 9 enfants, et mon père, il a travaillé aux APO, et il a été, c'est une usine qui a à Magnin, juste à côté du Trot, c'est pour travailler dans la ferronnerie, et il a été en invalidité à l'âge de 35 ans. Mais aller à l'extérieur de son invisité, il a quand même toujours travaillé quand même, quoi. Il n'a pas voulu rester à rien faire.
Et ça, c'était vraiment de travailleurs, hein?
Peut-être bien, ouais.
Il y a la terre.
Il y a la terre. Mais j'ai pas encore lavé, j'ai attendu que vous rentriez. Puis après, bon, on se lavera tranquille, pépère.
Ouais.
Il y aura sa petite télé.
T'es le même homme qu'avant, ou il y a deux David?
Non, je pense qu'il y en a un nouveau.
Il
est moins bon qu'avant. Je la remarque moi-même, il est moins bon qu'avant. Parce qu'avant, il était plus souriant, plus joyeux, on s'amuse. Je rigolais mieux, j'étais plus aimable, tandis que maintenant, il y a un peu plus d'agressivité à cause de tout ça, quoi. Un peu plus de caractère. Maintenant, si j'ai envie de dire merde, je le dirai, tandis qu'avant, je l'aurais pas dit. On m'aurait laissé faire.
Ouais, l'affaire d'Outreau, ça fait peur, hein.
Faut dire aussi que des accusations sur mineurs, les gens qui ont des enfants, ça les rassure pas non plus, quoi. Même moi, personnellement, quand je suis sorti, de prison, la famille, elle fait confiance. Mais quand je suis sorti, que j'ai vu mon petit cousin, parce que j'ai un petit cousin qui est né quand j'étais en prison, quand je suis sorti, que je l'ai pris je voulais le prendre dans mes bras au départ, mais j'ai eu peur du regard des autres. Et ça, j'ai une de mes nièces qui l'a vu, c'est-à-dire sa mère. Elle a vu que j'avais peur de le prendre. C'est elle-même qui l'a pris, qui l'a mis dans mes bras, et c'est là, ça m'a fait du bien, quoi. Du bonheur, quoi, surtout avec mon gamin. Moi et mon gamin, que du bonheur. Que du bonheur. Moi, je veux le voir rire aux éclats comme il riait avant. Je veux le voir s'amuser avec moi. Actuellement, il le fait le week-end. Mais c'est pas suffisant, quoi. Moi, je veux le tenir par la main pour le ramener à l'école. Je veux m'amuser avec comme on faisait avant, quoi. Moi, c'est tout ce que je veux, voir le sourire de mon fils. Et voir peut-être un peu le mien aussi. De toute façon, c'est quoi de le dire, je vais être avec vous, j'ai que le sourire quand mon fils est là. Et ça, ma copine, elle l'a déjà remarqué. Elle fait, avec moi, t'es un peu mal aimable, mais avec Anthony, quand il est là, tout va bien. Et moi, je lui ai demandé de me comprendre et elle comprend quand même. Mais cette affaire, ça m'a quand même rendu un peu agressif.
Avec qui?
Avec mes proches. Bon, à chaque fois, je demande pardon, mais bon. Pardon, à chaque fois, au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Mais je pense qu'ils me comprennent. Parce qu'ils parlent pas, ils osent pas parler, puis ils me laissent dans mon coin, quoi. Puis moi, quand je pique une, enfin, pour piquer une crise, et quand je me sens pas bien, bon, ben, je préfère aller faire un petit tour, puis je reviens après.
C'est de la colère ou c'est de la tristesse?
C'est de la haine, surtout. D'avoir eu tout ça sous le dos, d'avoir de la prison, des accusations comme ça, d'avoir des, d'avoir ce qui se passe encore à l'heure actuelle, malgré l'acquittement, c'est sorti de la haine.
Mais envers qui, la haine?
Entre les accusateurs et puis, la justice. Surtout Burgo. Ce petit jeune juge d'instruction qui a pas su faire son travail. Je l'ai vu qu'une fois, moi.
Et vous avez dit quoi, ce jour-là?
Il m'a dit les dépositions de Myriam Badawi, elle a été lue. C'est lui qui l'a lue. Moi, il m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit, bah, écoutez, moi, je fais, c'est une bande de fous. C'est du n'importe quoi. Moi, je suis humain. Je peux pas faire des trucs comme ça, des gosses. Faut pas les croire, quoi. C'est du n'importe quoi. C'est irréel. Et il a préféré écouter les criminels.
Il a répondu quoi quand vous lui avez dit ça?
Il lui a dit, bon, on va voir ça. Puis, ben, il m'a quand même gardé 2 heures à l'ombre. Non, 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 maintenant, ce qu'on veut, c'est la paix, c'est tout, la paix, le calme. Plus de regard, plus rien. Et ça, il n'y a qu'à Paris que je l'aurai. Sans région parisienne, bon, ben, c'est quand même différent d'ici.
Il faudra jamais dire qu'on vient d'outre-haut.
Bon, il faudra essayer de le cacher un peu quand même. Enfin, comme je suis né à Boulogne-sur-Mer, ça va. Mais bon.
Quartier des pédophiles. Le quartier de la honte. Le quartier de l'horreur.
Ça, ça a été écrit dans les journaux, quoi.
Ah ouais. De toute façon, on sera toujours sali vis-à-vis de ça. Hein. Et je veux dire, si tout le monde voit comme ça, bah, c'est comme ça et c'est tout. Nous, on s'en fout, on n'a rien à se reprocher, nous. Hein. Moi, ça fait 2 ans que j'habite ici. Je me considère pas comme... Moi, je m'en fous de ce qu'on peut écrire sur nous. Comme là, on a venu filmer nos enfants et tout dans les escaliers. Là, ça, je trouve pas ça normal, moi. C'est pas normal.
Quand tu vas chercher un emploi pour la mairie et tout ça, tu demandes un CES ou n'importe quoi. Tu demandes où c'est que t'habites, bah à Tour-du-Renard. À Tour-du-Renard, c'est pédophile. Bah voilà, c'est comme ça.
Malheureusement. Vous habitez Tour-du-Renard?
Oui, malheureusement, oui. Ça se voit à leur tête, ils se décomposent.
Et du coup, vous écrivez plus sur le CV que vous êtes de la Tour-du-Renard?
On met le nom de la rue, mais pas le nom de la cité. C'est clair.
Cette affaire, elle a vraiment sali tout le monde?
Alors, Totov? Cette affaire, elle a sali tout le monde. Madame a posé la question. Non, mais... Oui ou non?
Ouais, bah, c'est... Voilà, bah, votre réponse, elle est faite.
J'en ai marre.
Voilà.
Pourquoi vous avez envie qu'on en parle aujourd'hui, tout
non,
ça,
parce
encore
que j'étais à ma fenêtre et puis je vous ai vu cet après-midi parler avec mes voisines. J'habite l'immeuble en face. Enfin, c'est au bloc 2. Ouais, c'est bloc 2, moi je suis au bloc 3, mais côté mer.
D'accord.
Je voyais la lumière chez Badawi jusqu'à le matin. On voyait. Moi, ils allaient chez mes voisins de palier, ils sont déménagés là. Depuis que l'affaire elle est là, hop, ils sont déménagés. On les voit pas, on sait même pas ce qui s'est passé avec eux, tout ça. Ils allaient tous les soirs. On sait pas. Non, à côté, enfin en face.
Karim et David. Léo, ils ont été acquittés par exemple.
Acquittés, mais pour moi, ils viendront pas me voir. Ils viendront pas me dire bonjour, Non. Acquittés, oui, mais la suspicion est toujours là, quoi. La justice est bonne, mais elle a beaucoup de défauts.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que même maintenant qu'il y a eu l'acquittement, vous confieriez pas votre fille à la boulangère ou à Karim?
T'as rigolé? Pas du tout. Non. Ma fille est restée avec moi, ma femme, et c'est tout. Ma belle-mère. Et puis c'est tout.
Tiens. La caisse, s'il te plaît. Un Ricard et un verre de jus d'orange.
Au départ, on m'avait donné la consigne de ne pas en parler. Mais irrémédiablement, un jour ou l'autre, ça se sait, par le biais de la presse, ce qui m'a valu des heures et des jours de terreur, des insultes, des moments horribles, horribles, où j'ai dû rester terrée, service de douche spécial. Je ne pouvais pas plus me déplacer sans être encadrée par le personnel de surveillance, puis au contact des autres, parce que bon, c'était, on m'avait fait des menaces de mort. Vous êtes un monstre.
Moi, je m'aperçois que ma femme a actuellement le contre-coup de toute cette affaire, parce que c'est une femme forte, mais il y a des moments où, bon, elle pleure. Et ça, c'est l'après-procès, ça, c'est ce qui vient après tout ce qu'on a subi. Ça n'est plus comme avant. Avant, on était heureux de vivre. Mais ça, c'est dur.
Pierre Martel, le chauffeur de taxi. Auparavant, Roselyne, la boulangère. Quelques-uns des acquittés d'Outreau, stigmatisés, portant ce préjudice moral. Sans doute pour très longtemps. La presse s'est assez déchaînée dans cette affaire. On a retrouvé, puisqu'on vit ce grand bond en arrière, on a retrouvé les échos, les parfums de la presse populiste de caniveau du siècle dernier, tout à fait, on peut vraiment parler d'un racisme social dans la description qui a été faite de ces quartiers, environnement marqué par le chômage et souillé par l'alcool et la pornographie. On s'est beaucoup lâché. Il faut dire que il y avait tout, et s'il n'y avait pas assez, on inventait. Il y a une accumulation de fantasmes, les notables, les enfants, et puis cet écho et ce jeu de mots extraordinaire, on dirait du Lacan, entre Outreau et Dutroux. C'est vrai qu'il y a eu une analogie sémantique extraordinaire, et tout ça avec cette pression d'un pouvoir qui veut lutter contre le fameux laxisme, et pour qui il n'y a jamais assez de rigueur, jamais assez de bâton et jamais de lutte assez ferme contre l'insécurité. Tout un contexte. Il y a d'autres éléments là-dedans, il y a d'autres responsabilités, il y a une responsabilité collective bien évidemment, dont personne ne peut se sentir épargné par une affaire comme celle-là. Et puis il faut dire aussi que cette affaire n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée, il y a appel encore, et puis il y a ceux qui sont encore détenus, et puis il y a ce qui restera longtemps dans le cœur et dans l'esprit et l'âme des acquittés.
J'ai été sali. Maintenant, à l'heure actuelle, j'y suis moins, parce que bon, il y a eu l'acquittement et les gens, bon, ben, ils ont quand même eu le doute parce qu'il y a eu la prison. Mais pour les gens, je sais pas de voir, mais pour moi personnellement, j'ai été sali, bien sali. Ouais. Moi, comme je dis, des accusations comme ça, bon, c'est un crime grave. Ils m'ont pris pour de la merde, ils m'ont pris pour de la merde, pour moi jeter en prison comme un vulgaire chien, quoi. C'est tout. Moi, je suis rentré ici, sans rien me reprocher, quoi, tranquille. Il y a quelques regards, mais bon, les gens, ils parlent pas de trop. Il y en a qui me disent que c'est malheureux ce qui s'est passé. Il y en a qui ont encore du mal à comprendre. Et malgré l'acquittement, il y a quand même des personnes qui ont encore des doutes. Ça se voit sur le regard des gens.
Ça, vous les comprenez ou pas?
Moi, je veux bien les comprendre, mais il faut qu'ils me comprennent aussi.
Comprendre quoi?
Comprendre qu'il y a eu des erreurs de fait de la part du juge Burgot dans l'instruction, et qu'il y a eu un sacré bafouillage, quoi.
En gros, l'acquittement, il a pas enlevé le doute dans la tête de tous les gens.
Bon, il y a certaines personnes. Bon, la dernière fois, j'ai croisé un ancien ami de mes parents. Bon bah lui c'est comme c'est une personne âgée, bon bah lui il a quand même compris ce qui s'est passé. Mais si vous voulez, c'est à partir de l'âge de 20, 25 ans ou même 30 ans, ils ont quand même du mal à comprendre. Et malgré l'acquittement, ils ont quand même des doutes parce qu'ils disent qu'on met pas les gens en prison pour rien.
Et pas de fumée sans feu.
Voilà.
Et là vous leur répondez quoi?
Personnellement, je leur dis rien, mais je leur dis quelque chose quand même dans la tête. Moi j'ai les mains propres et c'est tout.
C'est tout, vous avez pas le sentiment qu'il faut vous justifier quoi?
Non. Mais j'ai rien à justifier. Non, je pense que les gens, ils ont beaucoup, parce qu'il s'est passé beaucoup de, il y a eu beaucoup de bafouillage, alors les gens, ils ont encore du mal à comprendre. Il y a des personnes qui habitent le ZAC 2, ZAC 3 ou la Tour, leur regard est toujours là, quoi.
Et si on va à la fenêtre, là, et qu'on crie un bon coup, la rage, elle peut partir, hein?
Non, parce que je pense que dans ce quartier-là, si je crie un coup à la fenêtre, je vais me faire repérer. C'est clair et net.
Vous avez pas été encore repéré?
Il y a des jeunes qui se sont mis à la fenêtre, qui ont crié « quartier de pédophile ». Moi, je me suis mis devant lui, le jeune à la fenêtre, je lui ai dit « t'es trop intelligent ». Et lui, il fait « bah quoi ?» Il fait « c'est vrai, il y a eu des pédophiles ». Je fais « bah ouais, il y a des pédophiles, mais il y a des drogués aussi ici, je veux pas l'oublier, mon gars ». Et je lui ai fait fermer sa gueule, quoi, qu'à de le dire. Et du coup, il a plus rien dit. C'est le marchand de glace qui passe.
Trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Marthe a passé chez le boucher. Boucher, voudrais-tu nous loger? Entrez, entrez, petits enfants, il y a de la place assurément. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Ils n'étaient pas si tôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme pourceau. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Saint-Nicolas, au bout de 7 ans, vint à passer devant ce champ. Elle a frappé chez le boucher. Boucher, voudrais-tu me loger? Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Entrez, entrez, Saint-Nicolas, pour de la place il n'en manque pas. Il n'était pas si tôt entré qu'il a demandé à souper. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Voulez-vous un morceau de jambon? Je n'en veux pas, il n'est pas bon. Voulez-vous un morceau de veau? Je n'en veux pas, il n'est pas beau. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Du petit salé, je veux avoir, qui a 7 ans, qui est dans le saloir. Quand le boucher entendit ça, hors de la porte, il s'enfuya. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Boucher, boucher, ne t'enfuis pas, repens-toi, Dieu te pardonnera. Saint-Nicolas alla s'asseoir dessus le bord de ce saloir. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Petits enfants qui dormaient là, je suis le grand Saint-Nicolas. Et le grand saint leva 3 doigts, les petits se lèvent tous les trois. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ. Le premier dit, j'ai bien dormi. Le second dit, et moi aussi. Et le troisième répondit, je me croyais au paradis. Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient glaner au champ.
Vous n'êtes pas parti de la tour.
Eh ben alors, oh là là,
à bientôt. Deuxième question pour tout le monde.
Ah ben, troisième question. Pourquoi vous ne partez pas de la tour du renard? Ah, parce que monsieur le maire, il veut pas, l'OPAC, elle ne veut pas, et parce qu'on n'a pas de revenus. Mais malheureusement, cherchant du travail, n'ayant pas d'aide, nous ne pouvons pas partir de là. Nous sommes ancrés dans un système et dans une société, dans un endroit pourri. Et on y reste pour toute notre vie. C'est clair, c'est net, et c'est précis, et ça résume le tout.
Merci, merci à tous. Merci à Roselyne Godard, David Brunet, Pierre Martel, aux habitants de la Tour du Renard et des bistrots avoisinants. C'était un reportage et c'était le premier, ce ne sera pas le dernier, d'Olivia Gesbert. Plus d'informations sont à votre disposition sur le site de Là-bas si j'y suis en allant sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Patrick Henry et Benjamin de la Gatinelle. Équipe de Là-bas si j'y suis, c'est Yann Chouquet, c'est Pascal Le, Pascariello et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com et c'est comme chaque jour. Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale réclame.